Chers auditeurs de Radio Maria, nous retrouvons à présent le docteur Pascal Pissochet pour l'émission Maternité blessée et Sylvie Le Petit. Bonjour à toutes les deux.
Bonjour Sandra, bonjour Sylvie, bonjour chères auditrices et chers auditeurs. Le thème du jour aborde le chemin de dévouement pour Monique Le Couffle, responsable de la vigne de Rachel. Il sera accompagné du témoignage de Sylvie Le Petit, auteur du livre Le deuil défendu. Tout d'abord, j'ai le bonheur aujourd'hui de vous présenter un bel échange, animé par les pas humbles et dévoués du chemin de vie de Monique Le Couffle, présidente LSI France, une association qui réunit les programmes de la vigne de Rachel, et ce, du chagrin à la grâce. Alors, la retraite du chagrin à la grâce, ou Grief to Grace, a été créée en 2005 par le docteur Teresa Burke, fondatrice également de la vigne de Rachel. Grief to Grace est destiné à la guérison des blessures de l'abus, qu'ils soient sexuels, physiques, émotionnels ou spirituels. Cette retraite vise à reconstruire, consoler, affermir et restaurer les victimes d'abus en les aidant à ressentir la présence de Dieu et à récupérer le sens de leur dignité sacrée. Pour les responsables associatifs et pastoraux, Grief to Grace est une ressource précieuse destinée aux victimes de maltraitance qui demandent de l'aide. Concernant la vigne de Rachel, elle a été fondée aux États-Unis par Teresa Burke dès 1986, avec les tout premiers groupes thérapeutiques de soutien post-avortement pour les femmes. Elle est devenue l'une des premières organisations pour aider les femmes et les hommes à se remettre des séquelles émotionnelles et spirituelles liées à l'avortement. À partir de 1995, Teresa adapte et étend le programme en lui donnant la forme d'une retraite sur un week-end. Retraite qui se transmet de bouche à oreille, en raison de son efficacité spectaculaire et de son expansion rapide à travers le pays, puis au niveau mondial. En 2003, le programme est associé à Priests for Life, prière pour la vie, et aujourd'hui en 2023, le modèle de la vigne de Rachel est étendu à 85 pays et traduit en 37 langues grâce au travail de nombreuses personnes bénévoles ressuscitées par cette retraite. En France, avec le soutien de Mgr Prouvé, alors évêque auxiliaire de Nanterre, la vigne de Rachel est initiée en 2009 par Anne-Hélène O'Malley après qu'elle fit l'expérience d'une profonde guérison lors de sa retraite aux USA. La vigne de Rachel, véritable thérapie de l'âme, est un programme destiné à guérir la souffrance, souffrance de l'avortement par IVG, IMG, fausse couche, fécondation in vitro, grossesse extra-utérine, ou dans le cadre du syndrome du survivant. Comment ? Eh bien par un processus de restauration, de renouvellement et de guérison, notamment spirituelle. J'ai souhaité alors en connaître un peu plus sur Monique, afin qu'elle nous partage sur un moment post-café un peu d'elle, de son histoire, de son fil conducteur, la menant vers cette belle fraternité, la vigne de Rachel. Tout cela en collaboration avec des bénévoles, œuvrant pour ce chemin de guérison et en offrant un environnement sécurisant pour renouveler, reconstruire et libérer les cœurs de femmes, d'hommes touchés ou brisés par l'avortement. En fait, si je devais terminer par la fin, je dirais que tout est providence, tout vient du divin et tout retourne à sa grâce, à la beauté de la vie et à sa création. Dieu exerce une maîtrise parfaite sur toutes choses. Il régit les affaires des hommes et agit à travers l'ordre naturel, afin que les lois de la nature soient le reflet de Dieu qui agit dans l'univers. Le dessein de la divine providence est ainsi d'accomplir la volonté de Dieu et seulement de Dieu. Pour Monique, le plus important est d'aider chacun, chacune, à trouver le pas. Celui qui va les aider à emprunter et connaître les diverses possibilités de chemin de consolation, de guérison et de restauration après un avortement. La vie est un chemin, et ces personnes peuvent commencer à en parler à leur médecin, à leur thérapeute, comme leur psychologue, et petit à petit, sortir de l'enfermement ou du secret de la douleur. Grâce à leur thérapeute, elles vont s'ouvrir, dans une approche médico-psychologique et thérapeutique spécifique qui pourra être poursuivie. Le pas suivant, plus spirituel, sera celui d'oser parler avec un prêtre qui va lui aussi commencer déjà à les aider à libérer un peu de leur culpabilité. Ensuite, le pas réalisé sera celui de la prière. Par la prière, elles pourront, dans leur cœur, approfondir leur démarche. Prière d'abord secrète, ou dans un silence complet, seule ou au cours de sessions spirituelles. Les prières pourront se faire aussi dans une démarche plus ouverte. Dans la vigne de Rachel, l'étape de la prière est une étape de partage, permettant une grande libération de la honte. Le fait de partager entre personnes ce traumatisme de l'avortement ou toute perte d'enfant non né est important dans le chemin de la délivrance. C'est ainsi que la retraite rassemble des personnes confrontées à toute forme de mort in utero, car tous ces événements sont reliés par la mort de tout petit avant la naissance. Quelle que soit la manière tragique dont ces petits-enfants ont une vie interrompue, ils laissent une trace de leur passage dans nos vies, mais aussi un grand chagrin et un deuil à vivre. Un chagrin pouvant être contenu, refoulé, anesthésié et se réveiller à tout moment de la vie. En écoutant l'émotion qui remplit les mots de Monique, nous devinons aisément combien elle est touchée par ses papas et ses mamans endeuillés. Dans l'intelligence du cœur et sous la miséricorde de Dieu, nous percevons les grâces reçues durant les week-ends de la vigne de Rachel, et cela autant pour les accompagnants que pour les personnes accompagnées. Monique est infiniment reconnaissante à Dieu de l'avoir menée tout au long de sa vie vers ce chemin de résurrection des âmes touchées, blessées, voire meurtries. À chacune des retraites mises en place et vécues, Monique a toujours le cœur touché. C'est vraiment une rencontre avec le Seigneur qui installe le décor et l'essence même de son amour consolateur et réparateur. C'est essentiel, car la mort est toujours une tragédie. La personne ayant vécu, par exemple, une fausse couche, porte en elle un grand chagrin, tout comme la personne ayant vécu une IVG, avec, pour l'IVG, un supplément de désarroi et de blessures engendrées par une culpabilité plus importante. Mais souvent, les mamans qui ont vécu des fausses couches peuvent aussi ressentir de la culpabilité en se disant « Mon Dieu, j'ai fait ci, je n'ai pas été prudente, je me suis trop agitée et mon bébé, ben voilà, il était mal accroché et il est parti. » Toute une multitude de petites phrases dans leur discours intérieur, source d'angoisse et de rumination, voire de regret et d'amertume. Dans cette dynamique de partage, quelle que soit l'origine du départ du tout-petit, il n'y a aucun jugement les uns sur les autres. C'est tellement beau de le vivre ainsi, même si cela n'est pas toujours compris vu de l'extérieur. Seul compte ce qu'il réunit, le départ de leur petit parti au ciel et la présence dans l'unité du Seigneur Consolateur qui accueille toute peine, afin que dans leur chagrin, la maman, le papa, puissent faire le deuil de leur bébé. L'entourage également. Je rappelle que Monique Lecouffle est responsable France de la vigne de Rachel, dont les programmes de guérison sont offerts, je le rappelle, dans 49 États américains et plus de 85 pays dans le monde, grâce à des milliers de bénévoles, au service de celles et ceux qui souffrent en silence. La règle, pour la vigne de Rachel, est que la retraite soit déjà vécue pour soi-même. La propre guérison de chacun, chacune, doit être le premier élément de discernement pour avancer vers la délivrance, mais aussi le deuil, et intégrer ensuite une équipe, si tel est le souhait. Ce modèle est utilisé par de nombreux professionnels de la santé, des programmes de rétablissement post-avortement, des centres de grossesse, des équipes pastorales et de présence à tous. Pour Monique, ce fut, et ce l'est toujours, un très beau chemin. Elle constate avec émerveillement combien le Seigneur a conduit sa vie. Déjà, au cours d'un séjour à Lourdes en 1981, elle reçoit son premier appel à quitter sa vie d'avant pour se dédier au service de la vie, plus spécialement de la vie à naître. Au fil des années, dans sa disponibilité aux diverses invitations de la Divine Providence, elle se laisse conduire jusqu'à se laisser inviter par le docteur Teresa Burke, présente au JMJ de Cologne. C'était en 2005, l'année de la mort du pape Jean-Paul II. Elle se rappelle de leur rencontre, de leurs échanges, la révélant davantage, alors qu'initialement elle allait aider comme soignante au JMJ. Dans ce chemin de providence, le sourire aux lèvres, elle repense à son groupe de volontaires dont le noyau avait préparé l'événement, groupe surnommé Domus Vitae, la maison de la vie en latin, un alignement synchronisé la menant vers sa mission, protéger la vie et co-soigner les blessures de la vie dès son commencement et sous sa grande miséricorde. Tout un cheminement vers la vigne de Rachel, mais aussi celui du chagrin à la grâce. Je reprends les propos de Monique. Heureusement, il y a une longue préparation pour avancer peu à peu dans cette immense mer de chagrin dans laquelle nous apportons une goutte de consolation. Mais comme aimait à dire Mère Teresa, nous réalisons que ce que nous accomplissons n'est qu'une goutte dans l'océan. Mais si cette goutte n'existait pas dans l'océan, elle manquerait. Si vous êtes amené à suivre le programme de la vigne de Rachel, vous pourrez vous concentrer sur le vécu de votre avortement, son histoire, et reconnaître combien il a pu affecter votre passé et encore votre présent. Toutes ces émotions négatives dans lesquelles vous vous êtes débattu, émotions parfois contradictoires ou anesthésiées, mais prêtes à exploser, feront l'objet de l'attention bienveillante de l'ensemble de l'équipe. Oui, une progressive reconnaissance destinée à sortir du silence, sortir du traumatisme post-avortement, souvent vécu comme un stress post-traumatique, et permettre de délier ainsi tout ce qui a été enfoui dans la douleur. Initialement, le programme était conçu pour les femmes, mais il s'est rapidement étendu aux proches et d'une manière générale à tous ceux qui sont touchés par le traumatisme et le deuil d'un enfant non-né, que cela soit intra ou extra-familial, conjoint, femme, homme, couple, enfant, grands-parents, personnel soignant. En intégrant la retraite dès le vendredi en fin d'après-midi, vous aurez la surprise de vous sentir rapidement en confiance, dans une démarche d'une grande intensité, comme une source vive dont la récolte est fructueuse, remplie de grâce. Tout au long de ce grand week-end, vous rentrerez dans un processus de rétablissement émotionnel, psychique et spirituel, particulièrement efficace sur la composante traumatique. Vous vous libérerez de vos nœuds par des modèles de traitement sensoriel, des écritures vivantes, mais aussi des activités de groupe animées et créatrices, des restructurations cognitives, des discussions, des prières, une libération du chagrin vers un accueil de la joie dans la douceur et la bienveillance, par des actions qui engagent votre esprit, votre corps et votre âme. Vous vous engagerez dans un profond processus de guérison spirituelle et un travail de deuil ancré en Jésus-Christ et la parole de Dieu. Quelle joie de finaliser le programme vers une renaissance du lien mère-enfant, père-enfant, un lien avec votre tout-petit auquel vous pourrez offrir un prénom. Je vous remercie, Monique, pour ce chaleureux échange que nous avons eu, source d'espérance, destinée aux personnes touchées ou blessées par le drame de l'avortement et ses conséquences psychiques et spirituelles. Merci enfin de nous rappeler les paroles de Sainte Mère Teresa de Calcutta à Teresa Burke, fondatrice, je rappelle, de la vigne de Rachel et du chagrin à la grâce. Que la retraite de la vigne de Rachel soit un instrument de la soif de Jésus de guérir et de restaurer la vie, l'abondance de la vie, qu'il a promise dès maintenant à quiconque cherche sa paix. Vous pouvez retrouver tous les renseignements utiles sur le site www.lavigne-de-rachel.net. Merci de votre écoute et nous allons maintenant accueillir le témoignage de notre invitée du jour, Sylvie Le Petit, à partir duquel un livre est né, Le deuil défendu, regardez en face la blessure de l'avortement aux éditions Saint-Léger. Merci encore.
Bonjour chers auditeurs et auditrices de Radio Maria France. Je voudrais vous remercier pour votre écoute bienveillante. Si j'ai la joie de pouvoir m'adresser à vous, c'est parce que le petit ange que je n'ai pas pu laisser venir au monde il y a 42 ans, m'a guidée tout au long de ma vie. Aujourd'hui, j'ai la conviction que cet enfant non-né m'a pardonné et qu'il me précède dans le ciel. De plus en plus, je me rends compte de sa présence dans ma vie et je vois que sa non-naissance devient source de vie pour les personnes blessées par l'avortement que le Seigneur met sur ma route. Comme l'a écrit le prêtre québécois Jean Monbourquette dans « Aimer, perdre et grandir », « Ta blessure deviendra ta mission ». Ma mission à présent, c'est de mettre en garde contre la banalisation de l'avortement et d'oser dire que cet acte peut avoir de graves conséquences sur le plan psychique, comme l'a montré le docteur Pissochet dans son livre « Maternité blessée ». J'ai 60 ans, je suis mère de 3 grands-enfants, dont 2 jeunes femmes qui se sont mariées récemment. Et j'ai aussi la joie d'être grand-mère d'une petite fille de 15 mois. Mais je n'ai pas oublié le bébé qui aurait dû naître l'année de mes 18 ans. Aujourd'hui, j'avoue que j'ai du mal à comprendre la jeune fille que j'étais à l'âge de 17 ans. Comment ai-je pu me laisser entraîner à avoir une relation sexuelle avec un jeune homme de 25 ans, rencontré sur une plage en Espagne, alors que je n'en avais pas envie et surtout que je n'étais pas du tout prête pour cela? Pourquoi n'ai-je pas pu ou su lui dire non? J'ai longtemps eu honte d'avoir été cette adolescente qui était à la fois curieuse de la sexualité et naïve. À 17 ans, incapable de me protéger, j'ai donc subi une relation non consentie, autrement dit un viol, et je me suis retrouvée enceinte. Pendant de longues années, je me suis culpabilisée et j'ai porté seule la responsabilité de ce qui m'était arrivé, car le jeune homme en question n'en a jamais rien su. Sans le savoir, j'adhérais alors à ce qui s'appelle la culture du viol et qu'on peut résumer ainsi « je l'ai bien cherché, tant pis pour moi ». Cet été-là, après être rentrée d'un séjour linguistique en Espagne, je découvre que je suis enceinte. À l'époque, je suis vraiment une gamine. Je ne comprends pas ce qui m'arrive et je suis dans le désarroi le plus complet. Ma mère prend rapidement la décision de me faire avorter. Mon père lui ne dit rien, comme si cela ne le concernait pas. Pourtant, du fait que je suis mineure, ce sont mes parents qui sont légalement responsables de cette décision. L'opération a lieu fin août, dans une clinique sous anesthésie générale. 2 semaines plus tard, je fais ma rentrée, comme si de rien n'était, dans un lycée parisien, où j'entre en classe préparatoire littéraire. Pour ma mère, c'est un problème de régler. Et sans doute par respect pour moi, elle me dit « on n'en parlera plus jamais ». Effectivement, nous n'en avons plus jamais parlé jusqu'à la publication de mon livre « Le deuil défendu », qu'elle a eu courage de lire alors qu'elle était âgée de 93 ans. Apparemment, elle avait tout oublié de cette histoire et la lecture de mon récit fut douloureuse pour elle. Mon père, lui, ne l'a pas lu. Après cet avortement, je suis entrée dans une forme de dépression larvée avec des hauts et des bas qui a duré des années. J'ai commencé à avoir des angoisses nocturnes et à faire des insomnies. Malgré tout, j'ai tenu bon dans mes études car c'était pour moi le seul moyen de retrouver l'estime de moi-même. Pendant une dizaine d'années, j'ai tout fait pour oublier cet avortement et comme de nombreuses femmes, j'ai préféré croire que ce n'était rien. Je me suis dit qu'il y avait une loi qui autorisait à le faire et que de toutes les façons, je n'étais pas en mesure d'être mère. Pendant 7 ans, j'ai eu un amoureux, j'ai fini mes études, je suis devenue professeure de lettres, puis j'ai quitté cet amoureux et le Seigneur a mis sur ma route celui qui est devenu mon mari et avec lequel j'ai fondé une famille. À vrai dire, je continuais à vivre avec une anxiété constante qui ne s'apaisait que lorsque j'allais à l'église ou lorsque j'étais avec mes élèves dans une salle de classe. Je croyais que c'était normal, que tout le monde vivait dans l'angoisse permanente ou ballotté au gré de l'euphorie ou de la dépression. Je me sentais souvent dépossédée de moi-même, hésitante, pleine de doutes et d'incertitudes. Je paraissais sûre de moi, mais en réalité, j'avais du mal à faire des choix et à prendre des décisions. Je devais toujours en référer à quelqu'un, à mon mari de préférence, et je ressentais comme un déficit de maturité, comme si j'étais restée l'adolescente de 17 ans qui n'avait pas eu voix au chapitre et avait laissé sa mère décider pour elle. À 26 ans, je suis tombée enceinte de mon premier enfant vivant. Et bizarrement, j'ai fait un déni de grossesse pendant 3 mois, comme pour protéger ce fœtus, car je n'étais pas encore mariée. À l'annonce de ma grossesse, mon futur mari a été fou de joie et j'ai été très heureuse d'être enceinte. C'était une rédemption pour moi. Mais le jour de la naissance de notre petite fille, lorsque j'ai eu mon nourrisson dans les bras, cette merveille de Dieu, alors le regret du bébé que je n'avais pas laissé venir au monde 9 ans plus tôt m'a submergée. Et j'ai vécu un premier deuil, réactivé lors des 2 naissances suivantes, celle de ma deuxième fille et celle de mon fils. En 1994, enceinte de mon 3e enfant, j'ai de nouveau été très angoissée et j'ai recommencé à faire des insomnies. J'ai alors entamé une psychothérapie, puis une psychanalyse, mais j'ai mis beaucoup de temps à parler de mon avortement et encore plus de temps à comprendre que c'était la cause de mon mal-être psychique. En tant que maman, j'avais des difficultés à être une bonne mère, c'est-à-dire une mère solide, rassurante et capable d'accueillir les émotions de mes enfants. Car j'avais moi-même été obligée de refouler mon chagrin et ma colère contre ma propre mère. J'avais du mal à me sentir légitime en tant que mère et en tant qu'épouse, comme si je n'étais pas digne d'être mère ou épouse. J'ai fait plus de 10 ans de psychothérapie analytique et ce n'est qu'avec mon 3e psychothérapeute que j'ai pu comprendre que cet avortement était la cause de mes difficultés. Et aussi accepter le fait que ce que j'avais vécu était un viol. Alors que j'avais environ 35 ans, j'ai fait une retraite à Béthanie. Béthanie, c'est un centre spirituel orthodoxe qui était animé à l'époque par le père Alphonse Gutmann et son épouse Rachel. C'est là que je me suis pour la première fois autorisée à pleurer mon enfant non-né. Le père Alphonse et Rachel ont accueilli mon chagrin et m'ont proposé de faire une cérémonie lors de laquelle j'ai donné un nom à cet enfant. Je l'ai appelé Jonathan. Mais ce n'était que le début de mon chemin de guérison, car j'avais beau avoir reçu le pardon du Seigneur, je continuais à me sentir coupable d'une forme de désastre dans ma vie affective et dans ma vie familiale. 20 ans plus tard, j'ai rencontré une personne bénévole à l'association AGAPA et j'ai de nouveau pris conscience de ma blessure. Je me suis formée pour devenir écoutante dans cette association, mais je n'étais pas encore prête à accueillir la douleur et les regrets des autres femmes. Celles que j'ai rencontrées étaient toutes dévastées par cet avortement qu'elles croyaient avoir décidé librement. En réalité, la plupart avaient avorté sous la pression, non plus de leurs parents comme cela avait été mon cas, mais à cause de leur conjoint, un homme adulte qui ne se sentait pas prêt. Alors qu'elles imaginaient que ça allait régler leurs problèmes, elles constataient ensuite qu'elles avaient perdu non seulement leur bébé, mais aussi détruit leur couple. En 2020, pour faire la paix avec moi-même et assumer mon histoire, j'ai décidé d'écrire un livre, « Le deuil défendu ». Le titre résume ce que j'ai vécu pendant 40 ans, dans le silence, la honte et la culpabilité. Dans ce livre, j'ai voulu retracer mon parcours, de l'adolescente que j'étais à la femme mûre que je suis devenue, afin de comprendre comment cela a pu m'arriver et comment cet événement a influencé toute mon existence. Suite à l'apparition de ce livre, j'ai rencontré Joël Rosenfeld, qui est décédé le 7 janvier dernier. Cet homme, engagé à la vigne de Rachel, avait souffert d'un avortement vécu par sa petite amie dans l'inconscience de leur jeunesse. Il éprouvait un immense regret d'avoir 2 enfants non nés, car c'étaient des jumeaux. Bouleversé par mon récit, il m'a encouragé à faire une retraite de guérison avec la vigne de Rachel. Cette session, vécue en juin 2022, a été un moment très fort grâce à l'écoute de trois accompagnateurs et à la présence d'un prêtre qui a accueilli ma confession. Pendant cette retraite, la lecture active de certains passages de l'Évangile m'a permis de recevoir, dans la profondeur de mon être, des paroles de guérison, comme si Jésus s'adressait à moi personnellement. Il y a eu une messe pendant laquelle nous avons offert nos enfants non nés au Seigneur, et je me suis sentie enfin déliée et consolée. Je voudrais vous dire que ce qui m'a sauvée pendant toutes ces longues années où j'ai porté le poids de ma culpabilité, c'est ma foi. Car à aucun moment, même lorsque je me jugeais durement, je n'ai douté de l'amour du Seigneur pour moi. Aujourd'hui, je me sens prête à aider d'autres femmes à déposer leur fardeau au pied de la croix du Christ pour vivre avec lui une résurrection. Au début du carême, je suis allée faire une retraite à la Sainte-Baume. J'ai vu la grotte où Sainte Marie a vécu durant les dernières années de sa vie. Et j'ai été touchée par cette femme qui a pris conscience de ses péchés liés à sa coquetterie et à sa sensualité. À la Sainte-Baume, on trouve un chemin de consolation mis en place par l'association Mère de Miséricorde. Dans la crypte, les personnes qui le désirent peuvent faire poser une plaque au nom de leur enfant non-né. J'espère y retourner et faire apposer moi aussi une plaque au nom de Jonathan. Chers auditeurs et auditrices, je vous remercie d'avoir accueilli mon témoignage avec un cœur miséricordieux. Que le Seigneur vous accompagne tout au long de ce carême sur votre chemin de transformation et de sainteté. Merci à Pascal Pissochet de m'avoir permis de témoigner aujourd'hui.
Merci beaucoup Sylvie pour votre témoignage qui est le fruit d'un long chemin vers la délivrance. Merci aussi pour votre rire durant nos séances de travail, un rire communicatif, un cadeau de Dieu. Je rappelle votre livre « Le deuil défendu, regardez la blessure de l'avortement » aux éditions Saint-Léger. Merci également à Monique pour notre échange rempli d'humilité et votre dévouement au sein de la ville de Rachel. Merci Sandra et Radio Maria France. Et enfin, un hommage tout particulier à Joël, parti rejoindre notre Seigneur le 7 janvier. Il était venu apporter son témoignage le 19 novembre dernier sur Radio Maria France. Merci Joël de votre bonté. Nous allons maintenant terminer cette émission par un passage de Jérémie. Jérémie 31, 15 à 17. Écoutez, à Rama, on entend une plainte, une amère lamentation. C'est Rachel qui pleure ses fils. Elle ne veut pas être consolée pour ses fils, parce qu'ils ne sont plus. Cesse ta lamentation, sèche tes yeux, car il est une compensation pour ta peine. Il y a un espoir pour ton avenir. C'est pourquoi je vais l'attirer. Je la conduirai au désert et je parlerai à son cœur. Là, je lui rendrai ses vignobles et je ferai du Val d'Accor une porte d'espérance. Amen.
Alors, merci beaucoup à toutes les deux, docteur Pascal Pissochet et Sylvie Le Petit. Et Pascal Pissochet, nous vous retrouverons bien sûr pour une nouvelle émission sur la maternité blessée.
Merci.
Merci. Au revoir.
Au revoir. Au revoir. Merci.
Chers auditeurs de Radio Maria, c'était l'émission Maternité blessée avec le docteur Pascal Pissochet et Sylvie Le Petit. Notre thème d'aujourd'hui, un chemin de dévouement de Monique Lecouffre, responsable de la vigne de Rachel, et le témoignage de Sylvie Le Petit, auteur du livre Le deuil défendu. Vous pourrez réécouter cette émission en podcast sur notre site internet www.radiomaria.fr.